Il n'y a pas de fête, même triste par définition, qui ne comporte au moins un début d'excès et de bombance. Il n'est qu'à évoquer les repas d'enterrement à la campagne. De jadis ou d'aujourd'hui, la fête se définit toujours par la danse, le chant, l'ingestion de nourriture, la beuverie. Il faut s'en donner tout son soûl, jusqu'à s'épuiser, jusqu'à se rendre malade. C'est la loi même de la fête. Dans les civilisations dites primitives, le contraste a sensiblement plus de relief. La fête dure plusieurs semaines, plusieurs mois, coupée par des périodes de repos de 4 ou 5 jours. Il faut souvent plusieurs années pour réunir la quantité de vivres et de richesses qu'on y verra non seulement consommées ou dépensées avec ostentation, mais encore détruites et gaspillées purement et simplement, car le gaspillage et la destruction, forme de l'excès, rentrent de droit dans l'essence de la fête. Celle-ci se termine volontiers de façon frénétique et orgiaque, dans une débauche nocturne de bruit et de mouvement que les instruments les plus frustes, frappés en mesure, transforment en rythme et en danse. Selon la description d'un témoin, la masse humaine, grouillante, ondule en pilonnant le sol, pivote par secousses autour d'un mât central. L'agitation se traduit par toute espèce de manifestation qui la croisse. Elle s'augmente et s'intensifie de tout ce qu'il exprime. Choc obsédant des lances sur les boucliers, chants gutturaux fortement scandés, saccades et promiscuités de la danse. La violence naît spontanément. De temps en temps, des rixes éclatent. Les combattants sont séparés, portés en l'air par des bras vigoureux, balancés en cadence jusqu'à ce qu'ils soient calmés. La ronde n'en est pas interrompue. De même, des couples quittent soudain la danse, vont s'unir dans les taillis voisins et reviennent prendre leur place dans le tourbillon qui continue jusqu'au matin. On comprend que la fête, représentant un tel paroxysme de vie et tranchant si violemment sur les menus soucis de l'existence quotidienne, apparaisse à l'individu comme un autre monde, où il se sent soutenu et transformé par des forces qui le dépassent. Son activité journalière, cueillette, chasse, pêche ou élevage, ne fait qu'occuper son temps et pourvoir à ses besoins immédiats. Il y apporte sans doute de l'attention, de la patience, de l'habileté, mais plus profondément, il vit dans le souvenir d'une fête et dans l'attente d'une autre. Car la fête figure pour lui, pour sa mémoire et pour son désir, le temps des émotions intenses et de la métamorphose de son être.
Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 des Yeux ont des oreilles. Vous ne reconnaissez probablement pas la voix de Nicolas, mais vous venez de prêter l'oreille à celle speakerinesque de Céline qui vient de vous lire un extrait de L'Homme et le Sacré de Roger Caillois, texte qui vous a probablement mis la puce à l'œil, aïe, quant au thème de cette nouvelle émission. Fête, Java, orgie, bombance, fiesta, ribouledingue, oui oui, de l'ancien français ribouledinguer, verbe lui-même issu de reboule, fête à la fin de la moisson, sont aujourd'hui à l'honneur. Mais je vous vois venir, horde de fans dévoués, prêts à inonder les rues au rythme de slogans tels que « Libérez Nicolas ». Je vais mettre fin à vos questionnements existentiels et vous dire que si nous célébrons quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas parce que Noël, le Nouvel An et les indigestions approchent. Non, non, tout ça c'est trop mainstream après tout. Si aujourd'hui c'est jour de fête, c'est parce qu'autour de cette table ne sont présentes que des filles. Mathilde a revêtu son plus bel habit de lumière pour l'occasion. Bonjour Mathilde.
Bonjour Agère.
Et Céline nous honore de son esprit festif et allègre.
Bonjour Agère.
Bon d'accord, on a fait entorse à la règle parce qu'il y a Clément à la régie. Bonjour Clément. Il dit bonjour. Et comme Les yeux ont des oreilles est une émission de service public comme chacun sait, on en veut pour preuve l'épisode qui a fait date, je parle bien entendu de Ce n'est pas la taille qui compte, on va tout de suite vous mettre en garde contre les excès alimentaires qui vous attendent très bientôt. Vous avez ce genre de repas qui vous fait jurer, après avoir ingurgité votre poids en dinde et foie gras, que non non, la nourriture et vous c'est fini, et que plus jamais ça. Mathilde s'apprête donc à vous lire un extrait du 7e chapitre de l'Assommoir, dans lequel Gervaise, blanchisseuse prospère à ce stade du roman, donne un fastueux repas auquel sont invités famille, amis et voisins.
Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette, c'est-à-dire que personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Gervaise, énorme, tassée sur les coudes, mangeait de gros morceaux de blanc, ne parlant pas, de peur de perdre une bouchée. Et elle était seulement un peu honteuse devant Gouget, ennuyée de se montrer ainsi gloutonne comme une chatte. Gouget, d'ailleurs, s'emplissait trop lui-même à la voir toute rose de nourriture. Puis, dans sa gourmandise, elle restait si gentille et si bonne. Elle ne parlait pas, mais elle se dérangeait à chaque instant pour soigner le père Bru et lui passer quelque chose de délicat sur son assiette. C'était même touchant de regarder cette gourmande s'enlever un bout d'aile de la bouche pour le donner au vieux, qui ne semblait pas connaisseur et qui avalait tout, la tête basse, abêti de temps baffré, lui dont le gésier avait perdu le goût du pain. Les Lorilleux passaient leur rage sur leur rôti. Ils en prenaient pour 3 jours, ils auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la bamban du coup. Toutes les dames auraient voulu de la carcasse. La carcasse, c'est le morceau des dames. Madame Lerat, Madame Boche, Madame Putois grattaient des os, tandis que Madame Coupeau, qui adorait le coup, en arrachait la viande avec ses 2 dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau. Quand elle était rissolée et chaque convive lui passait sa peau, par galanterie. Si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères en lui ordonnant de s'arrêter, parce qu'elle en avait assez comme ça. Une fois déjà, pour avoir trop mangé d'oie rôtie, elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne décrottait pas, elle n'était pas une femme. Est-ce que l'oie avait jamais fait du mal à quelqu'un ? Au contraire, l'oie guérissait les maladies de rate. On croquait ça sans pain comme un dessert. Lui en aurait bouffé toute la nuit sans être incommodé. Et pour crâner, il enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres, en se tordant de rire sur sa chaise à cause de Boche, qui lui disait tout bas des indécences. « Ah, nom de Dieu, oui, on s'en flanqua une bosse. Quand on y est, n'est-ce pas ? Et si l'on ne se paie pas qu'un gueuleton par-ci par-là, on serait joliment godiche de ne pas s'en fourrer jusqu'aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient grosses. Ils pétaient par leur peau les sacrés goinfres. La bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse. Ils avaient des faces pareilles à des derrières, et si rouges qu'on aurait dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité. » Et le vin donc, mes enfants, ça coulait autour de la table comme l'eau coule à la Seine, un vrai ruisseau lorsqu'il a plu et que la terre a soif. Coupeau versait de haut pour voir le jet rouge écumer, et quand un litre était vide, il faisait la blague de retourner le goulot et de le presser du geste familier aux femmes qui traient les vaches. Encore une négresse qui avait la gueule cassée. Dans un coin de la boutique, le tas des négresses mortes grandissait, un cimetière de bouteilles sur lequel on poussait les ordures de la nappe. Madame Putois avait demandé de l'eau. Le zingueur indigné venait d'enlever lui-même les carafes. Est-ce que les honnêtes gens buvaient de l'eau ? Elle voulait donc avoir des grenouilles dans l'estomac. Et les verres se vidant d'une lampée, on entendait le liquide jeté d'un trait tomber dans la gorge avec le bruit des eaux de pluie le long des tuyaux de descente les jours d'orage.
Tout le monde chante, tout le monde danse, oui mamselle, ça c'est la France. Avant dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc le menu, et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, maninette.
Après cette parenthèse gloutonne, retour aux bonnes manières et un peu d'élégance. Dans le bleu de ces jardins, entre murmures, champagne et étoiles, c'est les décors du texte et des réjouissances qu'Agère va maintenant nous faire découvrir. Non, vous n'y êtes pas du tout, ce n'est pas le jardin de l'ENS de Lyon. Imaginez plutôt Long Island, le jazz, des villas huppées, un voisin mystérieux et séduisant bien sûr. Oui, vous y êtes, Gatsby le Magnifique, par Francis Scott Fitzgerald. La célébrité, l'excès, l'amour et bien sûr la fête.
Une fois au moins par quinzaine, un détachement de décorateurs arrivait avec plusieurs centaines de mètres de toile et une quantité de lumière de couleur suffisante pour transformer le parc de Gatsby en un gigantesque arbre de Noël. Sur des tables, garnies de hors-d'œuvre luisants, s'entassaient des jambons épicés et cuits au four parmi des salades multicolores comme des manteaux d'arlequin, des pâtés de porc et des dindes qu'un sortilège avait teintes de brun doré. Dans la galerie principale, on installait un bar muni de son appui-pied en cuivre et garni de jeans, de liqueurs et de cordiaux depuis si longtemps oubliés que la plupart des invités étaient trop jeunes pour les distinguer les uns des autres. Vers 7 heures arrive l'orchestre. Non pas un petit orchestre de 5 exécutants, mais une pleine fosse de hautbois, trombones et saxophones, de viols, de clarinettes et de piccolos, de tambours alto et basso. Les derniers nageurs sont rentrés de la plage et s'habillent dans les chambres. Les autos de New York sont garés, 5 de front dans l'allée, et déjà les galeries, les salons et les vérandas s'égaient de couleurs, de cheveux coupés suivant d'étranges modes, et de châles qui éclipsent tous les rêves de Castille. Le bar fonctionne à plein rendement et les cocktails flottent sur des plateaux dans le parc qu'ils imprègnent de leur parfum. Si bien que bientôt l'air se met à vibrer de bavardages et de rires, d'insinuations nonchalantes, de présentations sitôt oubliées que faites, et d'enthousiastes rencontres entre femmes qui n'ont jamais connu leurs noms respectifs. Les lumières s'avivent à mesure que la terre accomplit l'embardé qui la détourne du soleil. À présent, l'orchestre joue une musique jaune cocktail et le cœur des voix monte d'un ton. De minute en minute, le rire devient plus facile, s'épanche avec plus de prodigalité. C'est cool comme d'une coupe qu'un mot joyeux suffirait à renverser. Les groupes changent plus rapidement, s'enflent de nouveaux arrivés, se dissolvent et se reforment, le temps de prendre haleine. Déjà on voit des vagabondes, filles confiantes qui font la navette ici et là, parmi leurs sœurs plus corpulentes et plus stables, deviennent pendant un instant vibrant et gai le centre d'un groupe, puis, animées par leur triomphe, s'éloignent en glissant sur l'océan changeant des visages, des voix et des couleurs, sous la lumière qui change sans cesse. Soudain, une de ces bohémiennes, vêtue d'une robe qui la transforme en une tremblotante opale, cueille un cocktail dans l'atmosphère, l'avale d'un trait pour se donner courage et, agitant les mains comme le danseur Frisco, danse seule sur la plateforme de toile. Un silence se fait, l'obligeant chef d'orchestre altère pour elle le rythme et des rires éclatent quand circule la nouvelle, fausse d'ailleurs, que c'est la doublure de Gilles Dagret, l'étoile des folies. La fête a commencé. Je crois bien que le premier soir où j'allais chez Gatsby, j'étais un des rares assistants qui eussent été invités. On n'y était point invités. On y allait sans plus de cérémonie. On montait dans des autos qui vous menaient à Long Island et je ne sais comment, on se trouvait déposé devant la porte de Gatsby. Une fois là, on était présenté par quelqu'un qui connaissait Gatsby. Ceci fait, on se conduisait suivant l'étiquette de mise dans un quelconque Luna Park. Il arrivait que, venu à la fête avec une simplicité de cœur qui tenait lieu de carte d'admission, on s'en retourna sans même avoir fait la connaissance de son hôte.
Mister Cocktail. Sans alcool, la fête est plus folle, hein.
La fête est-elle vraiment plus folle sans alcool ? Vaste débat, car si certains me diront que ce qui fait toute la magie de la fête, c'est l'ivresse, moi j'aurais tendance à penser que l'on ait ou non abusé de la boisson, ce qui nous pousse à faire la fête, c'est la recherche d'une parenthèse folle durant laquelle l'euphorie fait tomber l'ordre établi. Jugez-en vous-même en écoutant la douce voix de Céline, qui vous fait plonger dans le tourbillon carnavalesque de Théophile Gautier, rien que pour les yeux de vos oreilles. Ou le contraire, je ne sais plus trop bien en fait.
Venise pour le bal s'habille. De paillettes tout étoilées, scintillent, fourmis et babillent, le carnaval bariolé. Harlequin, nègre par son masque, serpent par ses mille couleurs, rosse d'une note fantasque, Cassandre son souffre-douleur. Battant de l'aile qu'avec sa manche, comme un pingouin sur un écueil, le blanc Pierrot par une blanche, passe la tête et cligne l'œil. Le docteur Bolognais rabâche, avec la basse où sont traînés, Polichinelle qui se fâche, se trouve une croche pour nez. Heurtant Trivelin qui se mouche, avec un tri extravagant, à Colombine Scaramouche, rend son éventail ou son gant. Sur une cadence se glisse, un domino ne laissant voir qu'un malin regard en coulisses, aux paupières de satin noir. Ah, fine barbe de dentelle, que fait voler un souffle pur, cet arpège m'a dit, c'est elle, malgré tes réseaux j'en suis sûre. Et j'ai reconnu, rose et fraîche, sous l'affreux profil de carton, sa lèvre au fin duvet de pêche et la mouche de son menton.
Ah, je ne sais pas vous, mais moi, à l'écoute de ces danses vénitiennes de Campra, l'esprit festif s'empare de moi. Chers auditeurs, heureusement que chez Transistor, nous ne sommes pas encore passés à la radio filmée, car vous auriez assisté au spectacle déconcertant de mes déhanchements dans le studio. Rassurez-vous d'ailleurs, car à la place, vous avez droit à la lecture par Agère d'un extrait de La Danse du Dragon par Earl Lovelace.